Session de philosophie sur la liberté par le père Philippe à Saint-Jodard, le 28 août 1988.
Nous commençons ce soir cette session philosophique. Je vous salue d'abord tous, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas en franc connaissance, puisque c'est très important, je crois, dans une session philosophique, qu'il y ait tout de suite un climat d'amitié. Vous savez ce que Socrate disait? Et Socrate, c'est quand même le maître de ceux qui enseignent. Socrate disait: es-tu mon ami? Si tu es mon ami, je peux parler. Si tu n'es pas mon ami, je ne peux pas parler. On ne peut pas dire ça quand on enseigne les mathématiques ou quand on enseigne la chimie. Ou même quand on enseigne la littérature, et la grammaire, et la logique. Pas la peine. Tandis que la philosophie, oui, c'est très curieux. Ça ne veut pas dire que la philosophie soit subjective. Mais ça veut dire qu'elle implique un certain climat. Il y a un certain climat. Les psychologues d'aujourd'hui le disent, et ils ont raison, que l'affectivité pousse notre intelligence. L'affectivité peut être un mur qui arrête le développement intellectuel. Et l'affectivité peut être, au contraire, un moyen merveilleux, un climat qui permet un développement intellectuel. Il y a des éclosions de notre intelligence. Il y a des printemps de notre intelligence. Heureusement que notre intelligence n'a pas d'âge. Mais il y a des printemps. Et puis il y a des hivers. Et quelquefois, de longues périodes, notre intelligence est comme engourdie. Puis tout d'un coup, ça s'éveille. C'est très curieux, ça. On appelle ça intuition, ça m'est égal, comment vous l'appelez. Moi, j'aime mieux dire éclosion. Des éclosions d'intelligence qui sont très curieuses, qui sont très significatives. Quelquefois, sur des vieux troncs, il n'y a pas d'âge. L'intelligence n'a pas d'âge. Notre sensibilité a un âge. Notre voix, c'est pour ça que de temps en temps, on n'a plus de voix. Notre voix a un âge, elle est liée à l'aspect biologique. Pas notre intelligence, heureusement. Notre intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, n'a pas d'âge. Alors, ce qui fait qu'on peut commencer la philosophie à n'importe quel âge. Et souvent, quand on a déjà une longue expérience humaine, on s'éveille beaucoup plus vite à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Le vieil Aristote disait qu'il ne fallait pas enseigner l'éthique à des jeunes de 16-17 ans. Qu'il fallait déjà ceux qui ont beaucoup d'expérience. Alors on pouvait faire comprendre l'éthique. Or l'éthique est sûrement une des grandes voies d'accès à la philosophie. Pas la seule, mais une. Elle est philosophique, tu vois. Et si on n'a pas du tout d'éthique, je crois que notre philosophie est bancale. Il y a quelque chose qui ne va pas. La philosophie de l'art, ça peut s'enseigner beaucoup plus vite. Surtout dans notre monde d'aujourd'hui. On est plus vite, on a plus vite le sens artistique que le sens moral dans le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'accidents qu'avant. Parce qu'on conduit d'une manière artistique. Voyez bien, voyez tout de suite, de manière artistique, on veut toujours être premier. C'est ça. On veut montrer à l'autre, mais oui, qu'on est bien plus brillant que lui. Alors qu'au point de vue moral, on dirait attention, la voiture est vieille, mes pneus sont vieux, je vais déraper, le sol n'est pas sûr. Oh putain, cette grosse voiture, laissons-la. Qu'une espèce d'importance. Il ne faut pas faire d'accident. Ça, c'est moral. Point de vue artistique, pas du tout. Point d'importance. La bagnole, c'est la bagnole, elle est faite pour ça. C'est vrai que le sens du fat chéré, le sens artistique, se développe très vite. Comparativement au sens éthique, au sens politique, c'est plus long. C'est ça qu'on peut entrer dans la philosophie par l'art. Ce sont des portes. Il y a trois portes. Hein, trois portes. Il n'y a pas 36, il y en a trois. Qui nous font entrer dans une pensée plus spéculative. Il faut un climat. Je prends ce petit exemple qui m'a beaucoup frappé. C'était une mère de famille belge, la sœur du père Braun, qui était dominicain, avec moi à Fribourg, qui était exégète, la bonne exégète de Saint-Jean. La sœur du père Braun, famille nombreuse, belge, bien assise, faisait une conférence sur l'expérience d'une maman pour éducation. C'était très intéressant. Alors elle a donné une fois cet exemple. J'ai gardé l'exemple. Parce qu'il était tellement joli et tellement significatif. Elle a raconté cet exemple que son gosse, je ne sais pas quel âge il avait, encore jeune, première classe d'arithmétique, je ne sais pas à quel âge on commence en Belgique, ça ne fait rien, ça n'a pas d'importance. Il rentre, la maman lui dit, alors comment ça va? Comment ça a été ce matin? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben oui, on a un professeur d'arithmétique, il est bête. Tiens. Pourquoi il est bête? Ben oui, il dit 1 et 1, 2. Il est bête. C'est rien du tout. 1 et 1, 1. Sa mère dit, mon gosse est sûrement très intelligent. Curieux, très bien. Il avait dit avant, professeur, il est bête. Très significatif. Dès le point de départ, le gosse n'avait pas encaissé ce professeur. Alors le gosse prend son bain, sa mère lui lance une balle dans le bain, une seconde balle, et une bonne éducatrice, même d'arithmétique. Tu vois, une balle, deux balles, ça fait une balle, puis une autre balle, ça fait deux balles. Oui, mais maman, il n'a pas dit ça. Il a dit un et un. Il n'a pas dit un petit caillou, plus un petit caillou. Tu vois, ça fait deux cailloux. Puisque c'est comme ça que ça a commencé. À sa mère, de plus en plus, dit, c'était génial, mon fils. Il a quelque chose de très très profond en lui. Alors elle va voir le professeur, en bonne mère. Le professeur tout de suite dit, oh, votre fils? Oh oui. Il comprend rien. Il comprend rien du tout. Ah, c'est, je crois que c'est dans la classe, c'est le plus bête de toute la classe. La mère dit, oui, par rapport à vous peut-être, mais pas par rapport à d'autres professeurs. Vous ne pouvez pas juger comme ça mon fils, monsieur le professeur. Avec tout le respect que je vous dois, il y a quand même quelque chose qui me semble qui n'est pas tout à fait au point. Alors il l'a renvoyé. Parce que la mère n'est pas plus intelligente que le fils. Donc il l'a renvoyé. Voyez l'affectivité. J'ai expliqué à la mère que c'était pas si bête le gosse. Un et un. Plan philosophique, on distingue l'un numérique et l'un au niveau de l'être. Mais ce gosse, il avait compris quelque chose. J'avais saisi quelque chose, sa mère avait raison. J'avais saisi quelque chose. Il avait dû dire ça au maître. Mais monsieur, c'est pas ça, un et un deux. Tais-toi, espèce d'imbécile, tu comprends rien. Un et un deux, c'est tout. Vous n'avez qu'à accepter, si vous ne comprenez pas. Il y a un climat dans lequel on fait la philosophie. Ça, c'est bien sûr. Certaines choses, certaines pénétrations de l'intelligence, certaines saisies de l'intelligence ne peuvent se faire que dans un certain climat. C'est pour ça que je n'hésite pas, vous voyez, de faire une session philosophique dans un monastère. On retourne au Moyen-Âge. Après tout, c'est pas si bête. N'est-ce pas ? On fait une session philosophique dans un monastère, parce que vous êtes ici, dans un monastère. C'est pour ça que je fais la prière au début. Ceux qui ne croient pas, 2 minutes de silence, c'est bon. Le vieux Plotin, en Grèce, n'hésitez pas, quand ça venait très difficile, de dire « arrêtez, on va prier ». Vous voyez ça en Sorbonne, aujourd'hui, arrêtez. Un climat religieux a permis l'éclosion de la philosophie. Quand il n'y a pas de climat religieux, il y a certaines choses au point de vue philosophique qui ne peuvent pas. Ça ne veut pas dire, hein, encore une fois, que la philosophie est religieuse. Pas du tout. C'est l'homme qui est religieux. Pas la philosophie. C'est l'homme. L'homme est un animal religieux. Et si vous coupez d'un seul coup, a priori, l'attitude religieuse, vous mutilez l'homme. Je sais très bien qu'aujourd'hui, c'est difficile à comprendre ça. C'est difficile à comprendre. Et pourtant, c'est vrai. Je vous affirme. C'est l'homme qu'on mutile. Et la philosophie réclame la non-mutilation de l'homme, la non-mutilation de l'intelligence. Si a priori vous mutilez l'homme dans son intelligence, pas dans son bras, ni dans son pied, ni dans son poumon, si a priori vous mutilez l'homme dans son intelligence, vous empêchez l'homme d'être philosophe. Dès qu'on a un a priori, on ne peut plus. C'est pour ça qu'il y a si peu de philosophes, de vrais philosophes. Oui, je mettrai à la porte ici, à la session, mettez à la porte tous vos a priori. Il y en a, hein. La philosophie se fait toujours à partir de nos expériences. Et très vite, on interprète ces expériences. Oui ? Et on les interprète à partir de quoi ? À partir de quelque chose qui n'est pas l'expérience. Une idée, un a priori. L'expérience porte en elle son intelligibilité. Elle porte en elle son intelligence. L'intelligence que j'en aurai. On ne sait plus faire ça aujourd'hui. C'est comme ça qu'on ne sait plus regarder. On a des a priori. On est bourré d'a priori. Et la philosophie, c'est faire tomber nos a priori. C'est une purification. Les anciens avaient très fort ce sens-là. Et c'est pour ça que c'est toujours bon. Faire de la philosophie, on s'appauvrit et on devient plus intelligent. La philosophie n'a pas d'autre but que déguiser notre intelligence. Oui, dans les, anciennement, dans les villages, ça ne se fait plus maintenant. Mais moi, j'ai encore vu ça. Le type qui aiguisait les couteaux avec sa roue, sa meule. aiguisait les couteaux. Alors. Aiguiser son intelligence, c'est pas mauvais d'aiguiser son intelligence. Parce que tout aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, fait qu'on n'aiguise plus son intelligence. La définition de la philosophie de Peggy, que j'aime beaucoup. Peggy a l'avantage de ne pas être un philosophe. Et donne une définition de la philosophie qu'on peut appliquer à des quantités de domaines. Elle est merveilleuse, à la manière de Peggy. Peggy dit, tous les hommes descendent de fleuves. Voilà les a priori. Peggy ne dit pas ça, c'est moi qui dis ça. Tous les hommes descendent de fleuves. On fait comme tout le monde, on descend le fleuve. Les cadavres descendent plus vite le fleuve que les autres. Donc soyez cadavériques, vous vous adapterez beaucoup mieux. N'ayez pas de pensée. Pourquoi penser? Il suffit de s'adapter. Il suffit qu'il y a un qui pense à ma place. Un seul suffit. Anciennement, on disait, il suffit que le curé pense à la place. Puis tous les paroissiens continuent, oh, aujourd'hui ça ne marche plus. Mais dans le temps, c'était ça. Il y avait que lui qui aiguisait ses couteaux, c'est-à-dire son intelligence. Et Peggy ajoute, monter, remonter à la source, c'est difficile, c'est pénible. Il faut accepter d'être seul et de ne pas être toujours en union avec les autres. Il faut accepter d'être seul. On remonte à la source. C'est ça le philosophe. Il remonte à la source. Il essaie à partir des expériences de saisir toute l'intelligibilité de cette expérience. À travers une expérience, découvrir l'homme. C'est beau ça. Je me souviens, là encore, une autre petite conversation. Ça, c'est Peggy. C'est très beau comme définition de la philosophie. Remonter à la source. Ne pas faire comme tout le monde descend le fleuve. Quand vous décrivez, vous descendez le fleuve. Et vous faites comme tout le monde. Autre petite expérience. C'était au Carmel de Limoges où je prêchais. Et la mère prieure me demandait, est-ce que vous acceptez de prendre votre repas avec des prêtres ouvriers qui viennent régulièrement toutes les semaines prendre leur repas là et passer leur après-midi à l'ombre du Carmel. Je dis très bien, je ne demande pas mieux. J'étais en dominicain. Alors tout de suite la question, qu'est-ce que vous faites? Je dis, professeur de philosophie à Fribourg. Alors je vois encore ce bon prêtre ouvrier, dur. Oh, quelle philosophie! Alors je regarde, mais pourquoi pour vous il y a plusieurs philosophies? Ben, il n'y a qu'une philosophie, la recherche de la vérité. Si on ne recherche plus la vérité, on n'est plus philosophe. Vous croyez qu'il y a plusieurs philosophies, mais dites-moi ces diverses philosophies. Évidemment, elle ne savait pas. Alors j'ai commencé à lui dire, mais il n'y a qu'une seule philosophie, la philosophie de nos expériences. Pourquoi êtes-vous prêtre ouvrier? Vous êtes prêtre ouvrier pour connaître l'ouvrier. Et moi, je suis philosophe pour connaître l'homme. Et c'est pour ça que je suis prêtre ouvrier dans une université. Parce que je côtoie toujours des professeurs laïcs. Donc je suis prêtre ouvrier avec eux. Et je suis professeur. Vous cherchez l'ouvrier, moi je cherche ce que c'est que l'homme. Parce que c'est pas suffisant de chercher ce que c'est que l'ouvrier. Vous pouvez pas connaître ce que c'est que l'ouvrier si vous connaissez pas ce que c'est que l'homme. J'ai commencé par la fin de petite leçon de philosophie. Pour montrer qu'être prêtre ouvrier, c'est pas suffisant. Il fallait aller beaucoup plus loin. Qu'il fallait connaître l'homme. Au bout d'un certain temps, ils m'ont dit, mais quelles sont les grandes expériences que vous prenez? Je dis, la première expérience par où je commence ma philosophie, c'est le travail. Ça a tombé bien. C'est le travail. Ah, vous faites des causes. Mais je comprends, c'est capital. Pour vous comprendre, il faut comprendre ce que c'est que le travail. Pour comprendre ce que c'est qu'un prêtre ouvrier. Surtout quand l'ouvrier prend tout. Il faut connaître un peu ce que c'est que le travail. C'est très très important, c'est essentiel. Je sais très bien que traditionnellement, on ne commençait pas la philosophie par l'étude du travail, mais c'est capital de commencer par là. Puis là, au bout d'un certain temps, ils m'ont dit, ah, mais ça doit être très intéressant cette philosophie. Je dis, je comprends que c'est intéressant. Non, moi, j'en sais dirai pas. C'est très intéressant. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est bien plus intéressant que d'être prêtre ouvrier. Ah, c'est tout juste s'ils sont pas venus à Fribourg. Oui, on a des a priori sur la philosophie. Oui, j'aurais aimé, au début, de dire, chacun d'entre vous, faites un petit billet. Qu'est-ce que c'est que la philosophie pour vous? Hein? Alors, il y aurait, ce serait la meilleure réponse. Le billet blanc, je n'ai pas d'a priori. Alors, ce serait le billet blanc. Ça serait parfait, ça, c'est parfait. Premier rang, les billets blancs. On ne sait pas ce que c'est. Sauf si on a déjà fait beaucoup. Ah oui, la philosophie, c'est cette recherche de la vérité. Et c'est vrai. La philosophie, c'est la recherche de la vérité. Si on est philosophe, c'est pour rechercher la vérité. Si on fait une session sur la liberté, c'est pour chercher qu'est-ce que c'est que la liberté. Et la vérité sur la liberté. On entend tellement de choses sur la liberté. Là aussi, ce serait intéressant. Je pourrais partir de là. À Fribourg, quand je suis arrivé au début, je faisais les cours à l'université. Mais grâce à Dieu, il y avait aussi d'autres cours. Il y avait une école très sélecte pour des Américaines, tenue par des Dominicaines. Des Dominicaines américaines. Et il y avait une école pour des Américaines qui venaient passer un an à Fribourg pour savoir ce que c'était que l'Europe. Du moins, pour recevoir les cours, parce qu'il y avait une université à côté, pendant les vacances, elle s'évadait, évidemment, dans les pays, à Rome, en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, c'était. Et là, j'ai fait un cours au début, comme on essaiera de faire ensemble. Puis j'ai vu que ça passait au-dessus. Alors, très vite, j'ai changé de méthode. Comme je devais faire un peu d'éthique à des jeunes Américaines de 20 ans. C'était très intéressant. Parce que j'aurais bien mieux aimé que ce soit elle qui parle. Comme moi, parce que je savais ce que j'allais dire, tandis que je ne savais pas ce qu'elle recevait. Alors j'ai changé complètement de méthode. On a pris un sujet, on est parti sur l'amitié, l'amour d'amitié. Alors j'aurais dit, écoutez, je vous mets pendant 5 minutes en silence, puis écrivez sur un papier qu'est-ce que c'est que l'amitié pour vous. C'était 20, je pouvais faire ça. J'avais 20 réponses différentes. Je les ai écrites sur le tableau. Puis j'ai commencé à partir de ces 20 expériences. Enfin, celles qui étaient vraies, celles qui étaient complètement erronées. Pourquoi, du reste? On discutait là-dessus. Alors, elles ont aimé ça, parce que ça partait d'elles, vous voyez. Puis alors évidemment, celle qui avait le mieux répondu, il n'y avait pas le nom, je ne savais pas qui. C'est toute fière. Comme ce n'est pas toujours la même, donc il y en avait plusieurs intelligentes. Et donc à ce moment-là, c'était un éveil intellectuel. Vous voyez, éveiller l'intelligence, c'est ça la philosophie. Éveiller l'intelligence. Comme on éveille le cœur, on doit éveiller l'intelligence. Pas la raison, l'intelligence. Et c'est pour ça que ça demande un certain climat. Vous voyez, si la philosophie, c'était tout simplement emmagasiner un dictionnaire de philosophie, des définitions, on aurait qu'à prendre un bon dictionnaire. La philosophie, c'est pas apprendre des définitions. La définition, c'est la logique. C'est pas la philosophie. La philosophie ne définit rien. C'est extraordinaire, ça. Le philosophe ne définit rien. Il laisse à la logique. Oh, le philosophe peut être un logicien. Il sait que la logique définit. L'homme, animal raisonnable. C'est pas une définition philosophique. C'est une définition logique. Genre et différence spécifique. Toutes les définitions, on pourrait regarder le petit Larousse et regarder toutes les définitions. La logique, c'est la logique. Et on croit faire de la philosophie en apprenant des définitions. Mais non, c'est de la logique. Le philosophe, lui, remonte à la source. Et la définition, c'est pas remonter à la source. C'est plutôt descendre le fleuve. Pas jusqu'à la mer. On s'arrête au plateau. Et on est fini. Remonter à la source, c'est découvrir les principes propres. C'est découvrir les causes. C'est ça qui est difficile. Et c'est là où l'intelligence s'éveille. Une intelligence est éveillée quand elle saisit un principe. Tant qu'elle n'a pas saisi de principe, elle n'est pas éveillée. Une intelligence logique, c'est une raison éveillée. On raisonne. C'est une raison éveillée. Raisonner, c'est très bon. Mais ce n'est pas l'intelligence. Tout raisonnement présuppose l'intelligence. Et tout raisonnement est pour le progrès de l'intelligence. Oui, c'est très important de tout de suite comprendre cela. Il peut y avoir des tas de difficultés déjà. Hein. On verra demain comment on organisera un peu ces journées. Il y aura des carrefours pour que vous puissiez dire tout ce que vous comprenez et tout ce que vous ne comprenez pas. Et pour que vous m'apportez vos difficultés. C'est très important. Carrefour sont presque plus importants que les conférences, que les cours. Les deux sont nécessaires. La philosophie, c'est éveiller l'intelligence. La philosophie, c'est la recherche de l'homme. Toute la philosophie est ordonnée à l'homme. Toute la philosophie. Vous voyez, tandis que la logique ne fait pas connaître ce que c'est que l'homme. Quand je dis animal raisonnable, ça ne me dit pas grand-chose. Ça ne me dit pas grand-chose. Quand je définis l'homme par sa nature, le corps et l'âme, ah, c'est très différent. Le corps et l'âme. Quand je définis l'homme par la main liée à l'intelligence, ah, c'est déjà très différent. Quand je définis l'homme, l'animal qui se tient debout, c'est déjà quelque chose. C'est pas une définition logique, ça. C'est beaucoup plus le point de vue biologique. Quand je définis l'homme, celui qui est capable de contempler, celui qui est capable de faire un outil, celui qui est capable d'user d'un outil. Oui, tout ça, c'est des définitions philosophiques. Le philosophe cherche à découvrir toutes les dimensions de l'homme. Toutes les dimensions. C'est donc une anthropologie, je veux bien. Une anthropologie qui va jusqu'au bout. des exigences de l'homme. Une anthropologie qui implique une métaphysique, qui implique une recherche de l'existence de l'être premier, la source première, l'Himalaya. Pas seulement le Mont Blanc, l'Himalaya, la source première de tout. Ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Le mot Dieu nous vient des traditions religieuses. C'est pas le philosophe. C'est pas un mot philosophique, Dieu. Le philosophe le prend aux traditions religieuses et montre que c'est très intelligent de parler de Dieu. Mais c'est pas un mot philosophique. Comme l'âme. Il faut bien respecter les mots qui ne sont pas proprement philosophiques. Ce sont des mots qui proviennent de traditions religieuses. L'âme. Toutes les traditions religieuses parlent de l'âme. Toutes. Les grandes traditions de l'Inde. Et puis Dieu. Sous des noms multiples. Et le philosophe s'intéresse à ça, puisqu'il s'intéresse aux traditions religieuses. Pour savoir si ce sont des mythes ou quelque chose. Alors, nous faisons cette recherche, vous voyez, dans un monastère, on pourra s'unir à la prière, évidemment, vous n'êtes pas forcé, à la messe, le matin à l'oraison, si ce n'est pas trop tôt, le soir à l'exposition du Saint-Sacrement, si on peut. C'est bon, je le dis tout de suite, c'est bon. De redécouvrir en soi, de réactuer en nous l'appel vers la transcendance. L'appel profond vers celui qu'on appelle le Créateur. Le redécouvrir. On met du temps au plan philosophique. On met du temps à découvrir ce qu'est Dieu. Mais le philosophe doit aller jusque-là. C'était le cours que j'avais à Fribourg. Qu'est-ce que l'intelligence philosophique peut dire sur le mystère de Dieu, sur Dieu? C'est pas le seul cours que je faisais, c'était un des cours. Alors j'avais n'importe qui comme étudiant. J'avais quelquefois, même souvent, des athées. Je me souviens, cette petite Allemande athée, d'un milieu très athée, quand elles nous ont vu un cours sur l'existence de Dieu, elles sont assistées parce que elles voulaient assister à tous les cours. Mais je les voyais pas très heureux. Quand il y a eu un examen à la fin de l'année, elles m'ont dit ce qu'elles étaient. Elles m'ont dit, nous sommes athées, est-ce que pour passer un examen, on est obligé de croire en Dieu? Je dis non, non, non. Je veux bien que vous soyez athées, mais que vous le soyez d'une façon intelligente. Alors, j'ai dit, faites attention. Parce que je n'aime pas les a priori. Si vous êtes athée en raison d'un a priori affectif, zéro comme note. Parce que c'est zéro. Si vous savez défendre l'athéisme, ah, ce sera très intéressant. Elles sont arrivées toutes penaudes à l'examen. Alors écoutez, je ne veux pas vous taquiner trop. Je vais vous demander des positions historiques. Alors parlez-moi d'abord de l'athéisme. On va voir si vous connaissez vos ancêtres. À quel moment ça a commencé? C'est pas très vieux. Hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et pourquoi il y a eu ces athées? Est-ce que vous avez réfléchi pourquoi, Blanquise? Évidemment, elle n'a pas réfléchi. Essayez de comprendre. Parce que c'est vos grands-pères. Je veux bien que vous ayez des grands-pères, je ne veux pas les tuer. Mais soyez au moins intelligents, vous comprenez? Vous voyez, la philosophie doit aller jusque-là. C'est pour ça que c'est si important. Et quand le Concile Vatican II nous demande l'ouverture au monde, le Concile réclame de nous d'être philosophes. On doit pouvoir parler à n'importe qui, si on est un homme, et discuter avec un marxiste, et montrer l'erreur si on a découvert l'existence de Dieu. Discuter avec un positiviste à la manière de Monod. Discuter avec un néo-hégélien et ainsi de suite. Tous les athéistes contemporains. On doit pouvoir vraiment discuter avec eux. Autrement, on n'est pas philosophe. Le philosophe recherche la vérité. Et il recherche la vérité au milieu d'un maquis effrayant aujourd'hui. C'est affolant. Quand vous regardez à partir de l'hégélianisme, l'éclatement philosophique, parce que c'est un éclatement, on en dira un mot demain. Parce que c'est intéressant de voir ça. Il faut quand même comprendre dans quel milieu on fait de la philosophie. Et on vous met ici, dans un milieu religieux, monastique, et on prétend pouvoir faire de la philosophie avec une indépendance totale. Mais on respecte le milieu dans lequel on est. On le respecte. Puisque c'est un milieu religieux, très bien. Ils ont le droit d'être religieux, après tout. Liberté, égalité, fraternité, très bien. Ils ont le droit de l'être. Ils l'ont choisi librement. Ah, c'était une secte, on viendrait les délivrer. Vous voyez, on aurait pu faire une session philosophique dans une secte mône. Oui, ça aurait été curieux. Ça aurait été intéressant. S'ils acceptaient, on le ferait bien. Pourquoi pas? Puis on montrerait qu'une communauté humaine ne peut exister que si c'est à la base d'un choix libre. Toute communauté. Aussi bien la famille. C'est pour ça, du reste, vous voyez que des jeunes qui quittent la famille si vite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas choisi. Et les parents intelligents font très vite que leurs enfants choisissent. Ils choisissent leur père, leur mère. Tout le monde leur impose. Alors ils ne veulent plus. J'ai jamais choisi ça. J'ai entendu une petite fille, je vous affirme, 4 ans. 4 ans. Elle a dit à son papa, j'ai pas choisi d'être avec toi. Alors le père a répondu, moi j'ai choisi. Ah, moi j'ai pas choisi. Et ta maman, oh, c'est la même chose. Dès que je pourrai, je partirai. 4 ans. Ça promet. Hein. J'ai dit au père, il faut qu'elle fasse de la philosophie. Voilà, tout vrai qu'elle fasse de la philosophie. Je suis persuadé que si elle fait de la philosophie, elle restera dans la famille. Il faut qu'elle fasse de la philosophie. Alors, le père a dit comment? Mais oui, expliquez-lui. Quand elle dit des choses comme ça, discutez avec elle, jusqu'au bout. Et le père a fait ça. Et je l'ai revu 3 ans après. J'ai dit, alors la petite, elle s'appelait Marie. Alors la petite Marie, est-ce qu'elle est encore là? Oui. Oui. Elle avait 7 ans. Hein. Est-ce qu'elle résiste toujours autant? Non, beaucoup moins. Parce qu'elle sait que quand elle résiste, je lui montre que sa résistance n'est pas très intelligente. Alors elle n'ose plus. Elle dit, ah oui, mais faites attention, hein. Faut pas qu'elle garde ça pour elle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut peut-être lui montrer que c'est très intelligent, les questions qu'elle pose. Pour qu'elle puisse sortir ces questions. Autrement, elle va les rentrer. Alors ça va être sournois. Ça va être encore pire. Oui, il faut comprendre ce que c'est que l'éveil d'une intelligence. Et que c'est ce qu'il y a de plus vital en nous. Tous nos complexes, contrairement à ce que dit Freud, sont intellectuels. Radicalement. Ils sont premièrement affectifs. Mais radicalement, c'est là les limites du freudisme. Je l'ai dit, quand j'ai discuté avec les freudiens, vous ne regardez que l'affectivité, alors que les complexes les plus profonds viennent de l'intelligence. Vous avez eu un père très autoritaire, très bien. Ça vous a replié sur vous-même. Mais au fond, c'est l'autorité de votre père qui vous a empêché de poser des questions. Puisque chaque fois que vous posiez des questions, le père disait, on voit bien que tu es pas intelligente, tu es bête. Au bout d'un certain temps, tu n'es pas agréable d'écouter tout le temps ça. Vous voyez, le Concile Vatican II nous demande l'ouverture au monde vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes. Nous portons un monde en nous, un monde très multiple. Nous avons reçu des quantités d'influence. Si on a regardé la télévision, si on a lu des livres, l'ouverture au monde, c'est arriver à se connaître. Connaître qu'il y a en nous des nœuds. Connaître qu'il y a en nous des nœuds intellectuels, des nœuds affectifs. Essayer de les dénouer. Le meilleur psychanalyste, c'est le philosophe. C'est le philosophe. Parce qu'il éveille l'intelligence. Et l'intelligence peut être victorieuse de tous ses nœuds. Mais il faut pour ça qu'elle sorte un peu dans la recherche de la vérité pour découvrir les nœuds intellectuels qui sont beaucoup plus difficiles à dénoncer. À mes chers freudiens, j'ai toujours demandé s'ils allaient jusque-là. Ils m'ont dit non. J'ai dit, mais voyez, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous croyez que l'affectivité est première. Non, elle n'est pas première. Elle est très importante, mais elle n'est pas fondamentale. Elle n'est pas fondamentale. Il faut que notre affectivité soit éclairée par l'intelligence. Et quand nous sommes repliés sur nous, il y a un nœud affectif. Et ce nœud affectif empêche notre intelligence de se développer. Et donc il y a un nœud intellectuel. Et ce n'est pas suffisant d'enlever les nœuds au niveau affectif. Vous voyez, c'est ça la philosophie. Hein. C'est très humain, la philosophie. C'est pas une spécialité. Ça doit aboutir à une sagesse. Et on ne peut pas éduquer quelqu'un si on n'a pas un certain sens philosophique. Ça, je crois. On ne peut pas éduquer dans l'ordre chrétien faire une catéchèse si on n'est pas philosophe. Au moins un peu philosophe. Et éduquer si on n'est pas un peu philosophe, je dirais instruire aussi. La pédagogie implique une philosophie, une conception de l'homme. Alors ensemble, nous passerons ces quelques jours avec, j'espère, beaucoup de ferveur, un très grand désir d'aller le plus loin possible. Quand vous serez fatigué, vous me direz. C'est la simplicité de dire. Et demain matin, on verra un tout petit peu, point de vue pratique, comment on se divise. On attaquera tout de suite le sujet demain matin. Ce soir, c'était pour vous rappeler comment nous l'abordons en philosophe. C'est l'homme dans sa liberté. C'est pas la liberté. C'est l'homme. Et je verrai pourquoi c'est pas la liberté. Parce que la liberté, personne ne sait ce qu'elle sait, ce qu'elle est. C'est très curieux. On en parle beaucoup à cause de ça. Définissez la liberté. Ne passez pas la nuit pour ça. Hein. Mais si dans vos songes, vous arrivez à voir quelqu'un qui vient vous définir la liberté, notez-le tout de suite. Puis vous me direz demain, pendant la nuit, j'ai eu cette définition de la liberté. Maintenant, je sais ce que c'est, je vais voir si ce que vous dites est vrai. Regardez un dictionnaire. Je amènerai Petit Larousse demain. La liberté. Première chose qu'on doit faire, hein. Quand même on s'instruit par le dictionnaire. Le dictionnaire est fait pour qu'on soit un peu moins bête, un peu plus intelligent. C'est pour ça qu'on achète un dictionnaire. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Alors tout de suite, on va prendre une autre voie, une voie express. Parce que la liberté, c'est l'autoroute, tout le monde en parle, tout le monde en parle, sans rien savoir. C'est comme les autoroutes. On roule là-dessus, tout de suite, ça plus vite, mieux. On ne regarde rien. L'autoroute, on traverse un pays. On n'a rien connu. Il faut prendre des petites voies, petits sentiers. Le philosophe aime de prendre des petits sentiers. Les autoroutes, c'est la logique. C'est propre. Très propre. C'est très agréable quand il y a de la neige et du verglas.